et t'aime, je laisse à Louis, mon fils troisième, toute ma vaisselle d'argent. »
L'enfant se tenait collé à la jupe de Mao de Châtillon. Celle-ci lui caressa le front d'un geste tendre.
« Item, je veux et ordonne que tout ce qui demeure de ma chapelle soit vendu pour faire prier pour l'âme de moi. Item, que tous les effets de ma garde-robe soient distribués aux valets de ma chambre. »
Un remous discret se fit près des fenêtres ouvertes, et les têtes se penchèrent. Trois litières venaient d'entrer dans la cour du manoir, au sol couvert de paille pour étouffer le pas des chevaux. D'une grande litière ornée de sculptures dorées et de rideaux brodés des châteaux d'Artois, la comtesse Mao, pesante, monumentale, les cheveux tout gris sous son voile, descendait ainsi que sa fille, la reine douairière Jeanne, veuve de Philippe le Long. La comtesse était encore accompagnée de son chancelier, le chanoine Thierry d'Hirson, et de sa dame de parage, Béatrice, nièce de ce dernier. Mao arrivait de son château de Conflans, près de Vincennes, d'où elle ne sortait guère en ces temps pour elle hostiles. La seconde litière, toute blanche, transportait la reine douairière Clémence, veuve de Louis Hutin. De la troisième litière, modeste, au simple rideau de cuir noir, sortait avec quelque peine et aidé seulement de deux valets, messer Spinello Tolomei, capitaine général des Lombards de Paris. Ainsi s'avançaient dans les couloirs du manoir deux anciennes reines de France, deux jeunes femmes du même âge, 32 ans, qui s'étaient succédé au trône, toutes deux vêtues de blanc, entièrement selon l'usage établi pour les reines veuves, toutes deux blondes et belles, surtout la reine Clémence, et paraissant un peu comme deux sœurs jumelles. Derrière elles, les dominants des épaules, marchait la redoutable comtesse Mao, dont chacun savait, mais sans avoir eu le courage d'en porter témoignage, qu'elle avait tué le mari de l'une pour que l'autre régnât. Et puis enfin, traînant sa jambe, poussant le ventre, les cheveux blancs épars sur son col et les griffes du temps plantées dans les joues, le vieux Ptolémée qui avait été, de près ou de loin, mêlé à toutes les intrigues. Parce que l'âge ennoblit tout, et parce que l'argent est la vraie puissance du monde, parce que Monseigneur de Valois, sans Ptolémée, n'aurait pu épouser autrement l'impératrice de Constantinople, parce que, sans Ptolémée, la cour de France n'aurait pu envoyer Bouville chercher la reine Clémence à Naples, ni Robert d'Artois soutenir ses procès et épouser la fille du comte de Valois, parce que sans Ptolémée, la reine d'Angleterre n'aurait pu se trouver ici avec son fils, on accorda au vieux Lombard, qui avait tant vu, tant prêté, et s'était beaucoup tu, les égards qui ne vont qu'au prince. On se tassait contre les murs, on s'effaçait pour libérer la porte. Bouville se mit à trembler quand Mao le frôla. Isabelle et Robert d'Artois échangèrent une interrogation muette. Ptolémée entra avec Mao. Cela signifiait-il que le vieux renard toscan travaillait aussi pour le compte de l'adversaire? Mais Ptolémée, d'un sourire discret, rassura ses clients. Il ne fallait voir dans cette arrivée simultanée qu'un hasard de route. L'entrée de Mao avait créé une gêne dans l'assistance. Valois s'arrêta de dicter en voyant apparaître sa vieille et géante adversaire, poussant devant elle les deux veuves blanches, comme deux agnelles qu'on mène paître. Et puis Valois aperçut Ptolémée. Alors, sa main valide, où brillait le rubis qui allait passer au doigt de son fils aîné, s'agita devant son visage, et il dit
« Marigny, Marigny !»
On crut qu'il perdait l'esprit, mais non. La vue de Ptolémée lui rappelait leur commun ennemi. Sans l'aide des Lombards, jamais Valois ne serait venu à bout du coadjuteur. On entendit alors la grande Mao d'Artois dire « Dieu vous pardonnera, Charles, car votre repentance est sincère !» « La gueuse !» prononça Robert d'Artois assez haut pour être entendu de ses voisins. « Elle ose parler de remords !» Charles de Valois, négligeant la comtesse d'Artois, faisait signe aux Lombards d'approcher. Le vieux Siennois vint au bord du lit, souleva la main paralysée, la baisa, et Valois ne sentit pas ce baiser.
« Nous prions pour votre guérison, monseigneur, »
dit Ptolémée. « Guérison !» Le seul mot de réconfort que Valois eut entendu parmi tous ces gens, dont aucun ne mettait sa mort en doute et qui attendait son dernier soupir comme une nécessaire formalité. Guérison. Le banquier lui disait-il cela par complaisance, ou bien le pensait-il vraiment? Ils se regardèrent, et dans le seul œil ouvert de Ptolémée, cet œil sombre et rusé, le moribond vit une expression de complicité. Un œil enfin d'où il n'était pas éliminé.
« Item, item, » reprit Valois en pointant l'index vers le notaire. « Je veux et commande que toutes mes dettes soient payées par mes enfants. »
Ah, c'était un beau legs qu'il faisait par ces mots à Ptolémée, et plus lourd que tous les rubis et tous les reliquaires. Et Philippe de Valois et Charles d'Alençon et Jeanne la Boiteuse et la comtesse de Blois prirent tous la même mine déconfite. Il avait bien besoin de venir, ce Lombard.
« Item à Aubert de Villepion, mon chambellan, une somme de 200 livres tournois. Agent de Cherchemont qui fut mon chancelier avant d'être celui de France, autant. » À Pierre de Montguillon, mon écuyer. »
Voilà que Monseigneur de Valois était repris par ce goût de largesse qui lui avait si fort coûté tout au long de sa vie. Il voulait récompenser royalement ceux qu'il avait servis. 200, 300 livres, ce n'était point legs énorme, mais lorsqu'il en existait 40, 50 à la file et qui s'ajoutaient aux legs religieux, l'or du pape déjà bien écorné n'allait pas y suffire, ni une année de revenus de tout l'apanage valois. Il serait donc prodigue, Monseigneur Charles, jusque dans son trépas. Mao s'était rapprochée du groupe anglais. Elle avait salué Isabelle d'un regard où luisait une vieille haine, sourit au petit prince Édouard, comme si elle l'eût voulu mordre, et enfin, elle avait regardé Robert.